Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. La Banque Centrale du Congo est engagée dans le redressement de la coopérative d'épargne et de crédit Imara de Goma. Avec plus de 35 ans d'existence, cette coopérative d'épargne congolaise doit plus de 24 millions de dollars américains à ses clients. Faute de liquidité, la COPEC Imara a du mal à fonctionner normalement depuis 7 mois maintenant. Ceci relance les débats sur la problématique de gestion des coopératives en République démocratique du Congo. Qu'avez-vous constaté dans votre milieu et quel regard avez-vous sur la décision de la BCC? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Nous disons merci à Pierrot et la Mégie et merci aussi à Willem Lungamba pour la réalisation de cette émission. Coordonnée et présentée par J.R. Lugembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lugembo.
Voilà, nous avons dans ces studios Jean-Claude Tetika, directeur général de fonds de promotion de microfinance. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Alors, microfinance, je pense que les coopératives se retrouvent aussi dans les microfinances.
Oui, oui, en effet. Juste une précision, hein, c'est le fonds pour l'inclusion financière en RDC. Nous travaillons effectivement avec essentiellement en grande partie les coopératives, mais les IMF aussi, c'est-à-dire les institutions de microfinance, mais aussi les banques qui ciblent la MPM, c'est-à-dire la micro et la petite et moyenne entreprise. Donc effectivement, je confirme que les coopératives sont nos partenaires en fait.
Alors aujourd'hui, la RDC compte à peu près combien de coopératives?
Bien, alors il faut comprendre une chose. Déjà du point de vue historique, le secteur de la microfinance a été dominé ou continue d'être dominé par les coopératives du point de vue historique, parce que ce sont les premiers qui ont existé dans le pays. Vous vous rappelez le
Kadeko,
Luyama, Luyama et d'autres. Et donc historiquement, c'était eux en fait qui soutenaient. C'était les seules initiatives qui soutenaient le peuple dans tout ce qui est
question. La plupart des cas, c'était des initiatives privées.
Alors maintenant, c'est pas pas tellement privé. Alors, si vous voulez, ce sont des initiatives des collectivités, c'est-à-dire un groupement de gens qui se mettent ensemble, qui se disent, voilà, nous avons des intérêts communs, nous devons mettre en place une structure pour pouvoir recycler les ressources financières que nous avons, et éventuellement pour s'entraider entre nous. Donc, ce sont des notables d'un coin qui ont eu l'idée, peut-être avec l'appui de l'Église, avec l'appui d'une ONG internationale, pour pouvoir créer, et dans le but effectivement de répondre à des besoins d'une communauté précise. Et c'est de là même que viendront encore un peu plus le problème lorsqu'on en parlera. Et donc ils ont, puisqu'il n'y avait pas de banque, les systèmes bancaires étaient complètement défaillants. Et ce sont ces institutions-là qui ont au fait des intermédiations financières, en tout cas au-delà des grandes villes. Et ils ont joué un rôle majeur. Malgré la crise des années 90, elles sont restées là et elles continuent d'être encore nombreuses. Aujourd'hui, on parle de près de 140 à 150 coopératives enregistrées. Donc, je ne parle même pas encore des coopératives qui ne sont pas enregistrées, en comparaison avec le nombre des banques qui sont autour d'une vingtaine, ou des institutions de microfinance qui sont autour des 15 ou 20, une vingtaine aussi.
La Banque centrale est l'autorité de réglementation, d'agrément et de supervision de tous les établissements financiers. On va faire les débats par rapport à ça, mais au fait, les expériences du passé prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, le système d'intermédiation financière pose énormément de problèmes. Parce que s'il faut citer les cas, par exemple, à un certain moment, je ne sais pas si on peut mettre ça dans quel compte, avec l'histoire des Nguma, des Bindo, et pour au fait ajouter à cela la Kadeko qui a disparu avec au fait les créances des clients, et puis bon, tant d'autres coopératives. Alors l'expérience au fait met un peu, déjà commence à redouter un peu.
Alors ne créons pas de l'amalgame. Donc il faut d'abord reconnaître que le secteur financier au Congo a énormément évolué. Je suis un observateur depuis une dizaine d'années. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Alors, il ne faut pas mettre au niveau de la Banque centrale toutes ces initiatives malheureuses hein, qu'on a connues, le pays, Bindo et les autres, ce ne sont pas des institutions financières. Mmh. Ce sont des pyramides financières qui ont été créées par des certains hommes d'affaires véreux qui n'étaient pas du ressort de la Banque Centrale, et donc la Banque Centrale ne pouvait pas, donc qui était plutôt de l'autorité publique à pouvoir réguler ces genres de personnes, parce que ce sont des gens qui ne peuvent même pas demander de l'agrément au niveau de la Banque Centrale. Effectivement, ils se sont comportés comme des institutions financières, ils ont fait énormément de dégâts, mais enfin, effectivement, il fallait arrêter ces gens-là, et donc ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc ce n'est pas cela. Alors maintenant, de l'autre côté, les institutions financières, il faut reconnaître que depuis 10 ans, la Banque Centrale a fait un grand travail, hein, il faut quand même le reconnaître, de la restructuration du secteur financier. Beaucoup de banques ont été fermées, restructurées aujourd'hui. Quand même au niveau des banques, on a un secteur quand même qui se comporte plus ou moins bien. Au niveau du secteur de la microfinance, des coopératives et les restes, aussi un grand travail est en train d'être fait. Ce n'est pas encore le parfait aujourd'hui, mais enfin je peux vous dire, par exemple, les 2 dernières années, la Banque Centrale a dû fermer au moins une quinzaine des institutions.
Mais pourquoi la banque, c'est prend toujours en retard si nous prenons les cas de dette internationale, dette a évolué. En amont, il y a eu quand même des enquêtes qui ont été menées avant qu'on puisse accorder l'agrément à cette institution financière. Mmh. Et nous avons des cas aujourd'hui des Maras qui, au fait, jusque là, personne n'a déclaré qu'il a fait faillite, mais on dit simplement qu'il a plus de dettes à rembourser auprès des clients.
Alors, non, comme je disais, ne créons pas tout ça, ne mettons pas tout ça ensemble. Il y a ce qu'on appelle des initiatives des pyramides financières, dont Dutch, donc tout ça, qui sont des institutions qui ne sont pas financières du point de vue de la réglementation de la Banque Centrale, qui se sont créées, effectivement. Si vous me dites pourquoi la Banque Centrale a vu cela,
il n'a pas agi.
La Banque Centrale a agi quand même.
Elle a laissé d'abord faire.
Mais il faut reconnaître que la Banque Centrale n'a autorité que pour les institutions qui sont réglementées, qui sont de son ressort. Et donc ils ont fait. Mais par contre, maintenant, peut-être parlons sérieusement des coopératives qui sont réglementées, qui, elles, posent des problèmes. Alors, si vous voulez, la problématique de la gestion des coopératives n'est pas une spécificité congolaise. C'est une question qui est quand même assez universelle, qui a posé beaucoup de problèmes dans les autres pays. Alors, si vous voulez, c'est exacerbé aujourd'hui avec la crise, mais aussi... Retenez quelque chose, c'est que la réglementation a suivi l'existence des coopératives.
C'est la réglementation qui a suivi.
Oui. Donc, ces institutions-là ont existé et n'étaient pas sous le ressort de la Banque Centrale il y a une certaine époque, jusqu'à ce qu'on parle aujourd'hui des systèmes financiers inclusifs. La première loi des coopératives et des institutions de microfinance date des années 2001-2002, quelque chose comme ça. Mais nous sommes en train de parler d'un secteur qui a une passée... C'est quand même assez longtemps, qui vient de loin, des années 50. Mmh. Donc, il y a eu certaines pratiques qui se sont fait, et la Banque Centrale a suivi par la suite pour pouvoir réglementer, mais effectivement, il y a encore un grand travail à faire, c'est encore un secteur qui reste fragile, mais le problème aussi, c'est par rapport, si vous voulez qu'on en parle, par rapport à la gouvernance même des coopératives qui, par essence, a déjà de facteurs de faillite dans son organisation. C'est là qu'il faut un jour attaquer, clairement, en termes de problèmes. Peut-être qu'il faut...
Voilà. Alors, c'est vrai que vous l'avez évoqué, il y a quand même un cadre légal et réglementaire qui, au fait, existe déjà depuis 2002. Au fait, c'est la loi 003 de 2002, du 2 février 2002, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aussi l'instruction numéro 1 aux IMF. Vous l'avez dit tout à l'heure, du 13 septembre 2003, qui a été modifié et complété le 18 décembre 2005. Mmh. Donc, en fait, réellement, la loi a suivi l'existence des coopératives.
Donc, la loi a suivi l'existence des coopératives. La loi essaye de réglementer, d'encadrer ces coopératives pour que leur gestion soit beaucoup plus correcte. Mais aujourd'hui, quelle est la nature des coopératives? Alors, parlons d'abord de ça. Les coopératives, ce sont, comme je vous avais dit, des initiatives de gens qui se mettent ensemble, un groupe de gens, et qui se disent, voilà, nous allons créer une coopérative. Et tout. Alors, qui sont les membres? Qui sont les membres qui doivent diriger la coopérative? Ce sont tous ces membres-là, les clients, qui viennent ouvrir des comptes, qui donnent une cotisation et qui deviennent automatiquement des membres. Alors, ces gens-là, c'est eux qui sont élus normalement dans les organes de gouvernance. Or, ce qui ressort aujourd'hui, c'est que la plupart, je ne dis pas, c'est pas pour manquer de respect, mais aujourd'hui, vous n'avez pas des critères d'efficacité, de compétences lorsqu'on recrute des gens qui doivent s'asseoir au niveau du conseil d'administration parce qu'ils ne viennent que parmi les clients qui sont là. Donc, il n'y a pas des exigences énormes, claires, strictes, de dire que, écoutez, celui qui doit être dans un conseil d'administration ou dans une assemblée générale ou dans un conseil de surveillance d'une coopérative doit avoir un tel niveau. Ça, c'est le premier faille. C'est-à-dire que les gens qui veillent à la gestion de ces coopératives sont naturellement, la plupart, pas assez compétents pour gérer une institution financière. Et donc, vous allez retrouver une personne ou deux qui sont un peu clairvoyants et qui ont été à la base de la création de cela, qui règnent comme de maîtres. C'est exactement le cas de Imara. C'est assez paradoxal de voir qu'une institution, une grande institution, gérait, mais celui qui était l'homme le plus puissant, c'était qu'un gérant. Alors qu'il y, a un, il y avait des conseils de surveillance, des conseils d'administration, et tout ça, mais ces gens-là, quel était leur poids par rapport à gérer tout cela? Ces gens-là ne comprenaient pas déjà l'activité, comment elle s'est passée, et donc ils étaient soudoyés par ce monsieur qui faisait tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir effectivement faire ce qu'il pouvait faire. Donc, pour moi, plutôt que de parler des hommes aujourd'hui, c'est de parler du problème, des exigences qu'on doit augmenter en termes des compétences pour ces institutions-là. Ce sont des institutions financières à part entière, mais ils font pas quand même...
Ils doivent respecter les règles.
Ils doivent respecter... Aujourd'hui, je vais vous dire, par exemple, pour que vous soyez directeur d'une banque, votre CV doit être approuvé au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale, au niveau de la Banque centrale. Donc, moi, je pense aussi, il faut élargir cela, vraiment renforcer l'exigence en termes de compétences pour ces coopératives. Oui, même si les gens qui doivent les gérer doivent venir parmi les membres, mais ces membres doivent être suffisamment compétents pour pouvoir gérer.
Voilà, alors Jean-Claude, je crois qu'il y a quand même une préoccupation avant que nous ouvrons les standards pour permettre à ce que les auditeurs puissent également réfléchir ensemble avec nous et apporter aussi quelques contributions dans cette thématique. C'est vrai que nous avons reçu un message d'un auditeur qui, en fait, a évoqué quelques raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, Imara puisse tomber, notamment en faillite. Vous avez cité déjà une des raisons, c'est-à-dire une certaine incompétence dans le fait de ceux qui ont dirigé, hein, certaines personnes qui ont dirigé, mais aussi les crédits qu'on octroyait. Il y a une multiplicité des crédits. Crédit étudiant, crédit maman, crédit mariage, crédit ceci. Alors, plusieurs crédits, et ce qui en fait que aujourd'hui, ça a amené la coopérative en faillite. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bien, écoutez, c'est un des points. Lorsque nous parlons de la gouvernance, déjà que les gens qui gèrent ne sont pas assez compétents, mais après, pour Imara, on peut étaler une liste de problèmes sérieux, c'est-à-dire qu'il y avait de manière générale ces problèmes de gouvernance, mais il y avait des problèmes d'approche, des problèmes des procédures, et tout cela n'était pas en règle par rapport aux bonnes pratiques. Je peux vous dire quelque chose. Cette institution, le FPM existe depuis plus de 4 ans dans ce pays. Nous avons travaillé presque avec une grande partie des coopératives dans ce pays. Bon, pas une grande partie, quand même un certain nombre de coopératives. C'est la seule coopérative qui a refusé, durant 4 ans, on les a approchés, de nous laisser entrer. Donc vous pouvez déjà comprendre qu'est-ce qui était derrière. On a fait tous les efforts possibles pour leur dire, écoutez les gars, vous avez grossi, vous avez grandi, aujourd'hui vous avez presque 40 millions de collectes d'épargne du public avec 200 000 clients. Vous ne pouvez pas continuer d'œuvrer comme ça, il faut que quelqu'un vienne regarder un tout petit peu ce que vous faites pour qu'on vous donne conseil. Les gars, ils ont dit, non, vous ne mettrez jamais vos pieds ici. Et donc,
opacité totale.
Ils nous ont opacité, et donc nous savions, alors je vais vous étonner, il y a 2 ans, j'étais en train plutôt d'attendre quel jour il m'a retombé. Ce n'était pas, pour moi, ce n'était pas...
Donc comme Siméo, ce jour-là est arrivé.
Non, pour moi, c'était quand. Mais pour ce qui est de la certitude que cette institution allait tomber, c'était clair. J'en ai parlé à mon conseil d'administration. De temps en temps, on a évoqué cela à la Banque centrale, que cette institution manifeste des failles terribles. La Banque centrale les a fait aussi pression pour qu'ils travaillent avec nous. Ils n'ont pas voulu. Mais enfin, la Banque centrale ne pouvait pas aller plus loin par rapport à cela. Et donc, défaillance des systèmes de crédit, défaillance des systèmes de contrôle, tout s'est donné, le monsieur donnait tout par lui-même. C'est lui qui avait la signature. Dans une institution de crédit, vous avez des règles pour donner du crédit. Vous avez des règles pour gérer. Écoutez, l'argent utilisé dans Imara, 80% à, non, disons 98% appartient à l'épargne du public. C'est-à-dire, pour transformer l'épargne du public qui est à 98% dans une institution, pour les transformer à des actifs, c'est-à-dire en crédit, il y a des règles que vous devez respecter. Parce que cet argent-là est exigible. C'est-à-dire, les clients peuvent venir à tout moment pour le prendre. Mmh. Alors, tu ne vas pas prendre sur les 100%, tu vas mettre 98% dans les crédits ou même prendre une grande partie, les mettre dans des immeubles. Le monsieur a construit des gros immeubles, pour rien. Des choses... C'était ambitieux
et prestigieux.
Mais sans savoir qu'un jour, des gens viendront pour pouvoir réclamer cet argent.
Voilà, Jean-Claude Etika, on va évoluer avec vous. Il est temps pour nous d'appeler les auditeurs qui, préfèrent participer à ces débats et aussi réfléchir avec nous autour de cette thématique du jour, parce que nous parlons de la problématique de gestion des coopératives en République démocratique du Congo. 081 890 6315 pour votre intervention en direct, et également le 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur qui est en ligne, Amissi est à Kindu. Amissi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Amissi. Votre point de vue.
Mon point de vue est clair, monsieur le journaliste. Vous savez, la coopérative Imara, elle a une adresse ici à Kindu. Moi, je fais membre de cette coopérative. Qu'est-ce qu'on a constaté, l'évolution de cette coopérative? La coopérative Imara a beaucoup aidé la population du Maniema. Elle a contribué au développement du Maniema. Là, je peux vous dire carrément, avec la décision de la Banque mondiale pour relancer la coopérative,
la Banque centrale est salutaire.
Elle est salutaire, monsieur le journaliste. Mais il y a une chose. Qu'est-ce qui a fait à ce que la coopérative Imara puisse avoir des problèmes aujourd'hui? Il y a les problèmes de crédit. La coopérative Imara a donné des crédits aux gens qui ont des possibilités, aux gens, aux amis et aux connaissances. Mais elle n'a pas tenu compte des qualités des gens qui prenaient des crédits. Voilà ce qui a fait à ce que la coopérative Imara puisse tomber en faillite. Par exemple, il y a le problème aussi des pourcentages. Quand on donne un crédit à quelqu'un, le pourcentage qu'on donne à celui qui doit remettre ça est trop grand par rapport aux intérêts que l'homme doit gagner. Et en plus de cela, la situation géographique du Maniema, la ville de Kindu est enclavée du fait que vous pouvez prendre un crédit à la coopérative Imara, mais le fait de comment multiplier cet argent-là, si vous pouvez faire un saut à Kisangani, à Butembo, vous pouvez faire même 2 mois, 3 mois. Et pendant que la date se rapproche pour rembourser cet argent-là, voilà, ça crée des problèmes aussi. Il y a un autre problème. Pour avoir un crédit à la coopérative Imara, il faut faire une opération retour. Il faut donner un pourcentage à celui qui va vous donner la chance d'avoir ce crédit-là. Et puis ça diminue. Par exemple, vous avez pris un crédit de 10 000 dollars. Et celui qui a facilité l'opération, il vous demande, c'est moi qui ai facilité l'opération, de me faire 1 500 dollars. Vous voyez, ça diminue. Ça crée aussi des problèmes. Voilà, pour moi, il y a un problème de changement, de gestion. Il faut changer tous les dirigeants pour le moment.
Voilà, merci beaucoup. Je crois que ce redressement passe par là et nous aurons beaucoup plus de précisions auprès de notre invité tout à l'heure. Hein. Merci Amissi. Vous saluez cette décision de la Banque Centrale du Congo pour redresser cette coopérative qui a au fait joué un rôle important dans le développement de la vie des populations de Maniema notamment, parce que Imara c'est quand même une grande coopérative hein, qui a évolué dans l'est du pays. Et vous avez au fait évoqué également quelques raisons qui ont fait qu'aujourd'hui Imara puisse tomber en faillite. C'est ces problèmes que nous avons évoqués, les problèmes d'octroi des crédits, et les crédits qui sont octroyés dans bien des cas, les bénéficiaires ne savent pas comment fructifier ou multiplier cet argent afin d'être à l'abri de manque de moyens pour rembourser cela. Vous l'avez situé par rapport à la position géographique, hein, le Maniema est très enclavé, et aussi les raisons de l'opération retour, le montant donné, en tout cas diminué, parce qu'il fallait passer forcément à cet exercice. Merci beaucoup Amissi d'avoir appelé de Kindu. Olivier, vous êtes à Kikwite. Bonjour Olivier.
Bonjour, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
Vous avez la parole Olivier, votre point de vue.
Ok, voilà, bon, je vais d'abord soulever une petite anomalie. Hein. L'invité dit ceci, la BCC n'a d'autorité que sur les institutions réglementées. Donc ça signifie que il y a encore la donnée de la finance, des institutions qui sont libres, comme les électrons libres, donc les électrons libres.
Des électrons libres, ça, il y en a aussi, oui.
Oui, alors ça c'est très très dangereux et je dirais même très grave. Ça signifie qu'il y a des gens qui ne sont pas soumis à la loi sur la finance. Et maintenant, je crois que c'est la Banque centrale qui est l'autorité de régulation devait s'imposer ou demander au gouvernement, aux législateurs, de faire un effort. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui travaillent avec l'argent des autres et de la façon dont ils veulent. Enfin, ils veulent. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la première anomalie. Alors, une autre anomalie, enfin pour moi, c'est que les banques dans notre pays servent à développer le pays, à donner le crédit et à le développement. Mais je ne sais pas pourquoi chez nous, nous voulons remplacer les banques par des institutions du genre coopératives. Et c'est vrai que ça a aidé. Il y a le temps, ça a aidé. Et je peux vous dire qu'à Titi, nous sommes aussi victimes de ce problème-là. Il y a une coopérative qui est fermée, il y a des gens qui sont en train de pleurer des millions de dollars.
Mais il s'agit de quelle coopérative, Olivier, si c'est pas un secret.
Saint-François Xavier. Donc, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et effectivement, c'était le fait que le conseil d'administration n'avait pratiquement aucun pouvoir. Le gérant était plus puissant que le conseil d'administration. Et c'est le gérant qui a eu, qui est pratiquement parti avec tout l'argent. Et, chose grave aussi, évidemment, la justice l'a aidé à fuir parce qu'il avait été arrêté et puis liberté sous caution. Et voilà, il a disparu. Ça fait longtemps. Et les gens pleurent. Donc, il y a des anomalies et j'aimerais qu'on nous dise s'il n'y a pas de loi. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir une coopérative, recevoir l'argent de la population et en faire ce qu'il veut? Ça, c'est une autre. Donc, je voudrais que revenir au système bancaire normal, la banque telle que nous la concevons tous. Cette histoire de coopérative, on en voit et on en a vu, on ne peut pas compter sur ça. Et nous avons l'impression que, en fait, chez nous, on a l'impression qu'on n'a pas envie de remettre la banque sur les rails. Et la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi. Donc voilà, j'ai des problèmes, il y en a nombreux, je n'ai pas monopolisé la parole, mais je crois qu'il y a des problèmes au niveau de la gestion bancaire de façon tout à fait générale.
Oui, Olivier, il faut noter que c'est vrai, comme notre invité l'avait dit, hein, la loi, la législation a suivi, est venue après hein, que les coopératives ou les systèmes bancaires puissent déjà exister. Aujourd'hui, quand on parle de la loi bancaire, on en parle depuis 2002, donc ça fait exactement 12 ans. Je crois qu'on est en train encore de se rechercher dans les secteurs et à corriger aussi certaines failles. Merci beaucoup.
Une question,
adressée à l'invité.
Alors, maintenant, vous savez que maintenant, la finance ici chez nous, elle est dominée par les agences de transfert. Alors, j'aimerais savoir, dans le cadre de la finance sur le plan national, les agences de transfert, moi j'ai besoin d'avoir l'argent à Kisangani, je ne peux plus faire de transfert bancaire, parce que ce n'est pas possible aujourd'hui, à partir de Kisangani. Alors, où est-ce qu'on va avec ce système? Devons-nous tous nous enfoncer dans les agences de transfert? Ou bien faut-il un jour penser qu'il y aura des banques? Voilà ma question.
Oui, parce que c'est étonnant, hein, c'est ce que nous constatons aussi, il y a des messageries financières, je ne sais pas si ils sont obligés de faire de crédits, d'accorder des crédits, ou c'est limité juste au transfert, je ne sais pas, c'est une préoccupation directe, hein, monsieur Jean-Claude, si ça vous dérangerait pas de répondre directement.
Non, écoutez, je peux très rapidement répondre à monsieur Olivier et les Kikuit. Oui, tout à fait, hein, vous avez raison, c'est-à-dire que la réflexion que vous faites, vous êtes en train de dire, oui, mais enfin, la Banque centrale ne réglemente ou ne supervise que les institutions réglementées, mais oui, effectivement, celles qui ne sont pas réglementées, la Banque centrale a le devoir de pouvoir leur demander de ne pas opérer. Parce que dès le moment où vous commencez, effectivement, à pouvoir brasser de l'argent venant de l'épargne du public, en effet, vous représentez déjà un danger si vous n'êtes pas sous la supervision de la Banque centrale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, la Banque centrale est en train de faire un travail important. Elle n'est pas encore arriver tout à fait à terminer tout le problème qui est là, ça c'est certain, mais il faut quand même reconnaître que ce travail est en train de faire. Il y a des institutions qui sont sommées de fermer parce qu'elles n'ont pas d'agrément ou de les obliger de pouvoir avoir un agrément pour pouvoir opérer. Non, ça c'est tout à fait clair, effectivement, on ne peut pas laisser des électrons libres, vous avez raison, c'est très dangereux parce que c'est effectivement, mais en même temps, n'oubliez pas, hein, traditionnellement, culturellement, on a toujours des tontines. Tontines éparpillées dans la ville de Kinshasa font de l'intermédiation qui est financière. C'est culturel, ça a eu beaucoup de mérite hein, dans le pays, hein, ça a aidé énormément de gens.
Et ça a causé énormément de dégâts aussi.
Oui, voilà, donc maintenant, il faut savoir quel mouvement qu'il faut faire pour pouvoir amener le peuple à savoir, écoutez, vous devrez quitter, si vous avez une banque à côté, quelque chose comme ça, aller dans une banque ou dans une coopérative. Alors, pour ce qui est de banque versus coopérative, bon, c'est un débat pour lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Non, les coopératives, lorsqu'elles sont bien gérées, représentent une alternative assez importante au système bancaire. N'oubliez pas, chers messieurs, que les banques, dans leur mission d'implantation ici au Congo, lorsqu'elles ouvrent dans des grandes villes. D'abord, la plupart dans l'histoire du Congo ont été des banques qui visaient des grandes entreprises, des corporates qui visaient des grandes multinationales. Et il n'y a que 5 ans maintenant qu'on voit un petit mouvement de banques vers les retail, c'est-à-dire vers le banking de masse. Et là encore, ça reste cloîtré dans des grandes villes. Maintenant, on ne peut pas dire à cause de cela, il faut attendre les banques 100 ans pour amener les banques à Kikwit, pour amener les banques au Bandundu et tout ça. Si on peut avoir des institutions financières décentralisées bien gérées, qui, elle, peut aller au fin fond du pays et de la nation, je pense que nous aurons un système financier inclusif qui pourra effectivement résoudre ou répondre aux besoins d'une grande partie de la population. Donc, la question n'est pas de savoir est-ce que les coopératives doivent exister ou qu'il n'y a que les banques qui doivent exister, mais la question c'est de savoir comment rendre ces coopératives beaucoup plus efficaces pour répondre. La question de leur résistance n'est pas, il y a un débat.
Voilà, il y a Patrice qui est à Kisangani, Mido dans le Bandunduville, et puis il y a Wassi, nous prenons plutôt Wassi hein, qui nous a rejoint, en tout cas le troisième auditeur qui vient à peine de nous rejoindre, Wassi, qui est chercheur au niveau de l'espace de recherche pour économistes de Goma, parce que c'est de là où est parti d'ailleurs le problème de cette coopérative Imara, coopérative d'épargne Imara. Alors Wassi, vous êtes avec nous, merci de nous avoir rejoint. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, merci. Alors, je veux dire ceci. Il y a un problème sérieux qui doit être résolu dans ce pays, c'est que chaque personne qui a un pouvoir a souvent tendance à en abuser. Alors, que ce soit du côté du public, que ce soit du côté du privé, le problème se pose. Et on ne sait qui doit gérer qui. Alors, pour le cas, par exemple, de la COPEC Imara, qui a un problème actuellement de gestion, il faut bien le dire, ils ont manqué quelqu'un qui peut faire pression sur eux de sorte qu'ils ne puissent pas dépasser leurs limites comme une couverture bancaire, de sorte à ne pas manquer de liquidités dans une banque. En fait, ils ont eu de l'argent, mais ils ont préféré plutôt l'investir dans des immobilisations, peut-être même des immobilisations qui n'ont pas rapporté grand-chose comme étant des liquidités à la banque. Et voilà, aujourd'hui, ils sont à court de liquidités. Et donc, ce que moi j'imagine, c'est que ils devront voir comment mettre même aux enchères les immobilisations qu'ils ont acquises avec l'argent des épargnes, surtout des épargnes à vue, ce qui est une grande erreur. Ils doivent voir comment mettre ça aux enchères pour essayer de rappeler les caisses et permettre aux épargnants d'avoir accès à leurs épargnes. C'est un droit, ce n'est pas un privilège. Alors, deuxième élément, c'est que au niveau du public, au niveau de la Banque centrale, c'est qu'ils ont noué une certaine relation qui essaye même d'indicater le contrôle, hein, malheureusement. Alors,
ils se sont familiarisés avec des gérants.
C'est un grand ami du directeur général. Alors, il demande comment le contrôler alors que c'est un ami. Bon, finalement, c'est encore nous, les épargnants, qui en sommes victimes. Et donc, je voudrais que la Banque centrale du Congo essaie de revoir sa position.
De bien jouer son rôle.
Elle peut prendre, voilà, justement, comment elle doit jouer ce rôle. Sans parti pris surtout, parce qu'il y a aussi de l'amitié qui doit primer, mais nous, ce que nous demandons, c'est que cette amitié-là soit hors.
Oui, alors vous, en tant que chercheur, voici, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes hein, pour que la Banque centrale arrive réellement, justement, donc, à redresser cette coopérative qui, en fait, qui doit normalement 24 millions de dollars aux clients?
Ah oui, bien entendu, 24 millions, c'est un peu trop. Et je vous ai dit tantôt qu'ils ont investi dans des immobilisations qui n'ont pas remporté grand-chose comme liquidité à l'entreprise Imara.
Alors, vous préférez qu'on puisse...
La première solution, c'est de vendre aux enchères ces immobilisations-là et aux besoins même de ces entreprises dans lesquelles ils ont investi volontairement. Ça, je pense qu'il n'y a pas de négociation. Et un deuxième élément, c'est que la Banque centrale doit essayer de voir comment suivre davantage les coopératives. Parce que ces coopératives-là sont gérées par des personnes qui ont aussi des besoins...
Des formations, des renforcements de capacités.
De s'enrichir un peu mieux, de sorte que lorsqu'ils ont investi, par exemple, dans les immobilisations, ils préfèrent même avoir ces immobilisations, non plus pour les coopératives, mais pour eux-mêmes, ouais, comme ce sont des gens qui sont... un peu économiquiste, comme je le dirais en économie.
Merci beaucoup, Wassi. Hein. Nous rappelons que vous êtes chercheur dans l'espace de recherche pour économistes de Goma. Et vous avez souhaité contribuer dans cette émission qui nous donne l'occasion de recevoir au fait Jean-Claude Tetika, qui est le directeur général de fonds pour l'inclusion financière. Voilà, nous avons également Patrice qui est à Kisangani et Midou dans les bandes de Nouville. Patrice, bonjour.
Bonjour, bonjour, Gérard, bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Patrice.
Oui, moi je pense que toutes ces coopératives-là sont créées avec un but d'escroquer juste l'argent des paysans.
D'escroquer, oui.
Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une image à celle. On doit parler de ce CER en 2008, il y a Barack Express, ainsi de suite, il y en a beaucoup. Alors, nous ne savons pas comment ces coopératives-là fonctionnent sans avoir l'agrément. Qui donne l'agrément à ces coopératives? C'est la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucune coopérative qui puisse fonctionner sans agrément. Alors, c'est-à-dire que derrière tout ce que nous pensons être détournement ou je ne sais pas moi quoi, il y a la Banque centrale qui
est défaillante,
doit connaître quelque chose dedans.
Voilà.
En ouvrant, il y a quand même une caution que la banque exige. Hein? Aujourd'hui, je vous dis que quand vous parlez aux gens des coopératives, bon sort, il n'y a personne qui peut vouloir aller poser son argent dans une coopérative. Tout simplement parce que quand on place son argent là-bas, après, au bout des temps, on doit en perdre. Alors, revenons à la question du jour par rapport à la banque.
Oui.
Central pour relancer les activités d'Imar. C'est bien bon. Mais pourquoi seulement à Imar et non aux autres, tels que CFR dont je suis en train de parler? Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui ont même claqué tout simplement parce qu'ils ont perdu des milliers de dollars dans ces coopératives là-bas. Mais la banque n'en parle même pas.
Mm-hmm.
Et apparemment, il y a même des intouchables, ce sont des gens qui étaient, je ne sais pas moi, des honorables, qui étaient
à la tête
de l'histoire.
Mm-hmm.
Et on n'en parle pas, les gens sont restés là-bas, on a perdu l'argent, nous sommes là, on est en train de regarder. Que dit la Banque centrale pour d'autres coopératives là qui...
Voilà, en fait, c'est le sujet du jour où nous parlons.
Donc, escroquer l'argent des gens.
Voilà, merci beaucoup, hein, Patrice. Vous évoquez également le problème de défaillance, de contrôle au niveau de la Banque centrale. C'est le cas d'ailleurs de Wassi, qui est un chercheur, qui a évoqué également le même problème. Et aussi d'autres auditeurs qui vous ont précédé. Je crois que notre invité pourrait nous éclairer à quel niveau il y a la responsabilité de la Banque centrale. Parce que tout à l'heure, il a évoqué la responsabilité de ces coopératives où on a insisté sur la gouvernance. La mauvaise gestion, la gestion opaque, qui ne nécessitait pas. Et pourtant, la loi bancaire est claire en disant que la Banque centrale du Congo est l'autorité de réglementation, d'agrément et de supervision de tous les établissements financiers. Qui dit supervision, c'est-à-dire le suivi, le contrôle d'une manière un peu, je crois, permanente pour se faire une idée sur les états financiers et savoir si, au fait, la coopérative fonctionne à plein régime ou il y a encore des petits problèmes qu'on pourrait recadrer. Merci beaucoup, hein, Patrice. On va terminer avec Mido qui est dans le banc de nous pour cette série de auditeurs. Mido, vous êtes avec nous, Jiri. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité. Je vous suis extrêmement vraiment. Bon, ce que je peux dire pour nous ou bien dans notre Congo, c'est que d'abord, je remercie d'abord le gouvernement congolais parce que dans l'ancien temps, vous savez, il y avait des banques là qui étaient là seulement pour reprendre l'argent des gens. Et dans un petit temps là ou bien dans un bref délai, il fuit avec. Mais pour aujourd'hui, vraiment, ça va un peu. C'est pour cela que je donne un grand vraiment effort à notre gouvernement congolais. Est-ce que je peux parler aussi dans nos banques congolais ou bien les banques qui sont là pour l'agrémenter l'argent déjà? Je ne sais pas, est-ce que toutes sortes de banques là, est-ce que l'État les connaît bien ou quoi? Parce que si aujourd'hui il y a moins de mouvements pour les années précédentes, la banque ou bien le gouvernement congolais peuvent suivre tous ces gens-là pour l'arrêter ou faire quoi, le remboursement de l'argent des hommes qu'ils ont pris. Je ne sais pas si l'État congolais connaît toutes ces banques. Parce que dans l'État où nous vivons, ici à Bandundu, nous avons seulement deux banques, je peux dire, la TMB et le Kadeko. Je pense que c'est les deux banques qui sont ici. Ce sont les Kadeco et la TMB. Avec la TMB, je pense que c'est les banques où l'État...
Oui, la Kadeco, c'est une caisse d'épargne du Congo, oui. C'est la caisse d'épargne, ouais, qui est un établissement public dont la vocation est de collecter l'épargne publique. Voilà, elle aussi se trouve en situation de quasi-cessation, hein, d'activité depuis plusieurs années. Bon, je crois qu'elle est en train de se remettre sur les rails petit à petit. Merci beaucoup, Géry Mido, d'avoir appelé des bandes de Nouvelles. Nous rappelons à nos auditeurs, vous qui souhaitez intervenir dans cette émission et aussi débattre de cette thématique, composez les 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous appeler au 081-890-6315 890-49-69 ou carrément nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
C'est parce que Radio Capé unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Nous allons prendre Étienne Aguemena tout à l'heure, mais il est temps pour nous de revenir à vous, Jean-Claude Etika. Vous êtes le directeur général de fonds, de promotion, pas les fonds de promotion, mais les fonds pour l'inclusion financière. Alors, vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Mm-hmm. Comment vous orientez leurs préoccupations et que répondez-vous particulièrement à Olivier et aussi à d'autres auditeurs, au fait, Wassi par exemple, qui a fait quand même des bonnes réflexions avec nous.
Oui, écoutez, d'abord si je commence par l'intervention de Amissi, je pense qu'il a dit exactement les choses que nous avions évoquées tout au long du débat, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il pense qui n'a pas bien marché. Il a évoqué deux points parmi les nombreux points qui existent, notamment la défaillance au niveau du choix des clients. On a choisi des clients comme ça, des amis, on a distribué un peu de l'argent. Effectivement, tout ça entre dans la gouvernance de cette institution qu'on a déployé. Il a parlé de des rétrocommissions. C'est tout à fait normal. C'est exactement des choses qui ont effectivement causé du tort à cette institution. Oui, effectivement, par rapport à des recherches de solutions, je pense que c'est une de pistes effectivement qui doit être explorée. Celle que Wassi a relevée, effectivement, nous l'avons déjà proposé nous à la Banque centrale. Déjà, je pense que la Banque centrale est tentée va les faire. Dans tous les cas, c'est-à-dire effectivement prendre tous ces immeubles. Toutes ces immobilisations et les vendre parce que c'est de l'argent des clients qui a été... Déjà, c'est une faute grave de prendre de l'argent en compte courant, c'est-à-dire de l'argent qu'on peut te demander à tout moment. Parce que si vous regardez le passif, c'est-à-dire le passif de l'institution, 90% de l'argent, à peu près 80% de l'argent qu'ils ont collecté, c'est de l'argent qui était dans le compte courant. C'est-à-dire, c'est de l'argent qu'on peut réclamer à tout moment. Or, la Banque centrale est tout à fait claire. Pour ces ressources très volatiles dans les institutions financières, vous ne pouvez les transformer qu'à un taux limité. Tu vois? Et même pour les transformer à des immobilisés, il y a un ratio de transformation, c'est-à-dire que la Banque centrale vous dit que vous ne pouvez que transformer des ressources de long terme pour le mettre dans les actifs de long terme. C'est-à-dire que la première ressource qui doit financer les immobilisés dans une société comme ça, c'est plutôt les fonds propres. Or, la plupart des coopératives sont sous-capitalisées. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est un autre problème que nous, on évoque chaque année pour dire que il faut qu'on revoie ça. On ne peut pas simplement exiger aux banques un capital minimum et aux autres institutions des capital minimum, mais les coopératives, malheureusement, du fait de leur nature coopérative, les capitales ne viennent que de membres. Or, le membre n'accorde que des 10 dollars, quelque chose comme ça, ils ne peuvent pas augmenter les capitales pour faire face. Donc, effectivement, vendre les
capitales... Donc, au niveau des coopératives, il n'est pas prévu les capital minimum.
Il n'y a pas de capital minimum. Il n'y a pas de capital minimum. C'est même ça l'esprit coopératif. Ça dit que le coopératif la coopérative est constituée par ses membres qui apportent tout ça. Et donc, si vous regardez l'ensemble, ils sont sous-capitalisés. Or, les capitales dans une institution financière, c'est le matelas de sécurité en cas de faillite. C'est-à-dire que chaque fois que tu es tourmenté, c'est le capital où tu dois l'épuiser. Voilà, tu dois l'épuiser pour faire un peu amortir les risques. Or, par nature, la plupart sont sous-capitalisés. Donc, à moindre coût des risques, ils sont partis. Donc, ça, je pense que c'est un point important que la Banque Centrale devait aussi voir, effectivement. Et oui, nous sommes déjà assez très contents de voir que ces gens sont en prison. Moi, je me demandais, mais quand est-ce que ça devait arriver? Bravo à la Banque Centrale.
Aujourd'hui, ils sont en prison, mais avant, la Banque Centrale s'est familiarisée avec. Vous avez suivi les auditeurs?
Ben, écoutez, moi, je ne peux pas répondre. Peut-être que ça serait une émission. Il faut appeler la Banque Centrale pour leur faire ce procès. Tout ce que je reconnais, c'est que la Banque Centrale fait énormément d'efforts aujourd'hui pour pouvoir réguler ses institutions. En tout cas, de mon point de vue, il le fait.
Je crois que c'est suffisant, on fera même le débat sur la Banque Centrale sur ses contrôles. Parce que nous avons toute tendance à les contacter. Parfois, il y a toujours des problèmes pour que les responsables s'expriment quant à ceux.
Il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter. Non seulement avant de les immobiliser, mais il faut qu'on fasse un effort qui font qu'on mette cette institution sous tutelle et pour que des techniciens puissent la gérer, récupérer l'argent de la vente de ces immobilisés. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'Imara a donné du crédit au moins à la hauteur des 17 millions de dollars.
Il s'agira là d'une liquidation?
Non. Oui, bon, enfin, ça c'est la Banque Centrale. Est-ce que la Banque Centrale, j'ai pas encore eu d'écho, est-ce qu'il va décider de liquider l'institution? Alors, pour la liquidation, alors il faut réaliser les passifs et tout ça. Il faut que quelqu'un paye la facture. Mais est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir sauver cette institution, peut-être en vendant les immobilisés à collecter peut-être 8 millions de dollars? Ça va soulager la situation, mais ça ne va pas répondre peut-être à tout le besoin. Donc, d'une certaine manière, il y a un apport de ressources qui doit être fait quelque part. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est certain.
Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les clients peuvent se retrouver, peuvent en fait rentrer dans leurs droits?
Non, ce n'est même pas la question s'ils peuvent, ils doivent, parce que c'est leur droit, c'est de l'argent qu'ils ont donné, l'institution doit pouvoir le donner, mais la question est-ce que s'ils ont vendu tous les immobilisés, est-ce que ça permettrait de pouvoir avoir tout l'argent? Non, parce que effectivement, il y a un vide dans la gestion, il y a de l'argent qui a été simplement détourné dans des business privés qu'on ne connaît pas. Donc, il faudra qu'on aille plus loin, au-delà des immobilisés de cette institution, des immobilisations, il faut qu'on prenne toute la richesse de ces individus-là. C'est-à-dire, on ne peut pas poser la question s'il a une maison ou quoi, on doit tout récupérer parce que par hypothèse, si tu, comme gestionnaire, tu engages des risques comme ça, qui fait volatiliser au moins 15 millions de dollars qu'on ne s'est pas retrouvé, tu dois répondre à cela. Donc, on doit étendre vraiment la saisie de tout le bien pour pouvoir permettre et à la fin, s'il y a un vide qui manque, effectivement...